m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Ah, milieu lundi, hardi, oui, vous êtes sur Radio Courtoisie et bienvenue dans Restons Courtois, votre émission de débat en partenariat avec Valeurs Actuelles, L'Incorrect, Le Monde Moderne et Boulevard Voltaire. Au menu ce soir, l'école libre victime d'un scandale assez étonnant, puisqu'on découvre que le prytané militaire de La Flèche, qu'on aurait pu supposer être un bastion de la tradition et de l'élitisme, exclut systématiquement de ses recrutements les élèves issus d'écoles privées hors contrat. Alors c'est pas un fantasme, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport Parcoursup qui a été rédigé par l'un des responsables du lycée militaire. Le passage donc par le hors contrat est un critère éliminatoire, je cite, hein, avec les guillemets autour de critères et d'éliminatoire. Alors, comment expliquer cette discrimination qui semble aussi nette que paradoxale ? Est-ce que cela est une initiative isolée ou une démarche politique systémique, comme on dit aujourd'hui ? Eh bien, nous en parlons dans un instant avec notre invitée, Anne Coffinier, présidente de Créer son école. Anne Coffinier, bonsoir.
Bonsoir, Pierre-Alexandre Bouclet.
Alors ensuite, nous aurons notre rendez-vous de la réinformation traditionnelle, et là nous reviendrons sur la marche blanche à Narbonne en hommage à Louis, cet adolescent de 17 ans qui a été attiré dans un guet-apens tabassé et laissé pour mort par 5 racailles, donc. Alors, cette marche suffira-t-elle à changer les mentalités ? Faut-il revoir en profondeur le fonctionnement de l'aide sociale à, de l'aide sociale à l'enfance, dont on a eu à parler assez souvent ici ? Faut-il revoir la justice des mineurs ? Ou faut-il pointer des causes plus profondes à tous ces drames ? Justice, toujours, avec l'un des procès qui sera sans doute un des plus importants de ces 10 dernières années, mais peut-être aussi des 10 prochaines. Ce mardi 7 juillet, donc Marine Le Pen sera jugée dans l'affaire des assistants parlementaires européens et elle saura, nous saurons avec elle, si sa condamnation à de la prison assortie d'une peine d'inéligibilité est confirmée en appel ou pas. Et donc on saura également si elle peut se présenter à l'élection présidentielle ou si elle devra se contenter de soutenir son dauphin, Jordan Bardella. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur la crispation de tout un système qui semble, depuis quelques mois, mobiliser ses ressources pour empêcher une vraie alternative politique. On l'a vu avec des mesures envisagées pour contrôler les réseaux sociaux, on l'a vu avec des mesures pour liquider les associations de droite comme Radio Courtoisie, pour détruire les médias Bolloré, on l'a vu avec C8, maintenant on le voit peut-être avec CNews. Et puis, on l'a vu évidemment cette semaine avec les perquisitions, au siège du RN et puis chez certains de ses prestataires en France, en Italie et en Espagne. Alors, est-ce que tout cela est le résultat de multiples coïncidences ou est-ce que l'extrême-centre applique les recettes qu'il impute aux démocraties illibérales qu'il assure combattre ? Eh bien, nos chroniqueurs en parleront dans un instant. Politique toujours, avec la publication du rapport de l'Institut Thomas More qui pointe les 50 décisions les plus funestes de la vie politique française des 50 dernières années. Alors il ne s'agit pas seulement de gratter ses plaies, mais de comprendre la mécanique qui conduit nos dirigeants à toujours prendre la mauvaise décision. Et comment concevoir au contraire, donc avec les pistes de l'Institut Thomas More, un programme de redressement national. Et puis nous finirons par un point sur les 250 ans de l'indépendance des États-Unis et la manière dont Donald Trump a célébré l'événement. Donc il a expliqué en gros que les États-Unis étaient un phare de l'humanité et que lui était le phare des États-Unis. Voilà, donc CQFD. Et ce sera évidemment l'occasion d'interroger, comme on dit à France Inter, la relation franco-américaine sur toutes ces années et celles qui viennent. Voilà, donc nous allons parler de tout cela avec la classe prépa de la réinformation. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'absents. Nous avons Richard Decez qui est présent, fidèle au poste. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect.
Bonsoir.
Et Alexis Poulain, directeur du Monde Moderne. Jean-Yves Le Gallou semble absent. J'espère qu'il n'a pas oublié le rendez-vous. Et nous attendons Xavier Van Liert qui devrait bientôt arriver. Ceux qui sont présents, chers auditeurs, ben c'est vous, par définition. Je vous rappelle que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions, vos remarques à Anne Coffinier et puis à tous les chroniqueurs, à tous les participants de cette émission. Vous pouvez téléphoner au 01 46 51 00 85 ou envoyer un courriel à courtoisie@rc.fr. courtoisie@rc.fr. Voilà, donc après cette introduction, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet avec Anne Coffinier. Alors Anne Coffinier, voilà, la question c'est qui veut exclure les étudiants catholiques de l'armée ? J'ai l'impression voilà, qu'on peut se le demander en découvrant donc, le rapport Parcoursup, comme je le disais tout à l'heure, du Prytané militaire de la Flèche, qui stipule donc noir sur blanc que l'appartenance à un établissement hors contrat est un critère éliminatoire à l'examen des dossiers. Alors déjà, comment est-ce que vous avez appris cette étrange histoire ?
En fait, ça fait des années que nous reviennent des bruits de traitement discriminatoire des élèves issus des écoles hors contrat ou des élèves catholiques. Ça dépendait un peu des versions et des sources. Et on se disait que c'était quand même un problème et on ne savait pas trop quoi faire parce qu'il faut des faits pour pouvoir agir et faire un recours contentieux. Et là, on a eu la chance d'avoir un parent d'élève dont l'élève a été donc refusé à Parcoursup. Or, cet élève avait un prix d'excellence, avait eu 17 et 20 au bac français. Il était reçu, admis dans des prépas publics prestigieuses à classe étoile. Donc, il y a quelque chose qui clochait manifestement. Et comme ce père d'élève est tout à fait intelligent, il a commencé à chercher et en grattant, il a trouvé le rapport du jury l'année dernière qui, effectivement, indiquait que parmi les critères éliminatoires, il y avait le fait de venir d'un établissement privé hors contrat. Alors, il m'a prévenu, j'ai fait intervenir un huissier à 1h du matin pour tout sécuriser avant que, éventuellement, ça ne disparaisse, parce que ça paraissait quand même assez fou.
Comment ça se passe concrètement, ça ?
Eh bien, en fait, il faut faire... C'est des huissiers qui œuvrent de manière particulière, puisqu'ils sécurisent des informations qui sont en ligne. Et donc, il y a toute une procédure particulière pour authentifier. Vous devenez votre IP, toutes sortes d'éléments pour dire que voilà, vous avez procédé à ce constat. Mais ce n'est pas un constat physique pour dire telle personne à tel endroit, c'est un constat numérique.
Numérique. Donc, avec capture d'écran et...
Voilà, donc c'est un rapport qui doit faire une trentaine de pages. Et fort de ça, je me suis tournée vers un de nos avocats, d'ailleurs très, très, très prestigieux, qui est Maître Briard et Maître Bonichaud, qui sont Maître Briard et Maître Bonichaud, qui ont tout de suite accepté la mission, parce que je pense qu'ils sont attachés à la liberté d'enseignement et puis à la justice. Et on a essayé de voir comment on pouvait procéder. Et je me suis dit que si on voulait arriver à quelque chose qui soit utile aux familles, parce que c'est bien de gagner, mais si on gagne et que ça ne change pas le destin des gens, c'est un petit peu embêtant. C'est bien les principes, mais c'est mieux quand ça profite directement aux personnes. Je me suis dit qu'il fallait faire en fait une espèce d'action combinée, c'est-à-dire une sorte de procédure contentieuse, mais en parallèle une action politique et médiatique. Donc j'écris aux trois ministres plus à l'inspecteur général de l'armée de terre une lettre en leur disant voilà le problème, voilà ce que nous demandons. Demain, nous faisons une saisie du tribunal administratif au titre d'un recours particulier qui s'appelle un référé mesure utile. Et puis, après-demain, nous faisons une conférence de presse à telle heure où nous allons expliquer à l'opinion publique de quoi il s'agit. Et donc, ils ont réagi extraordinairement vite, je dois dire. Et voilà.
Oui,
donc,
d'autant que le sujet a été vite médiatisé, pour le coup. C'est-à-dire qu'on a eu des articles dans le Figaro, dans le JDD.
Oui, alors donc, moi, j'en ai parlé d'abord, effectivement, au Figaro, pour qu'ils fassent un premier article qui arrive le matin de la conférence de presse. Et dans la foulée, on a eu 18 sorties presse dans la presse nationale, PQR, radio, télé, presse écrite.
Donc un beau lancement, oui.
Une très bonne couverture, parce que le sujet, c'est pas juste la question des enfants du hors-contrat. Parce que ça, je veux dire, on a envie de dire, ça mobilise pas beaucoup les troupes en général, c'est une minorité par définition. Le sujet, c'est vraiment la question de qui sont les officiers de l'armée de demain. Voilà. Donc forcément, c'est un sujet beaucoup plus intéressant en soi.
Et justement, alors qui est-ce qu'on a une idée du profil des officiers de demain?
Je sais pas quels ils sont, mais je sais que manifestement, il y a des gens qui veulent que certains profils ne soient pas les officiers de demain.
En lisant l'article, ça m'a évoqué une vieille affaire qui est l'affaire des fiches.
Évidemment.
Donc 1904, hein, que Richard de XVI a bien connu.
J'étais là.
Vous finissiez votre service, j'imagine. Et vous aviez été empêché d'être élève officier. Voilà. Donc, Mais alors, est-ce que ça vous semble une...
Non, mais il faut peut-être rappeler quand même l'affaire des fiches.
Oui, voilà, allez-y.
C'est qu'en fait, le ministère des Armées, à l'époque, avait fait ficher tous les officiers catholiques pour empêcher leur avancement et faire en sorte que ces officiers réputés mauvais français et mauvais républicains, à juste titre d'ailleurs, pour ce qui est d'être mauvais républicain et à un juste titre pour ce qui est d'être mauvais français, donc ne pouvaient pas accéder au plus haut poste. Ça a permis d'ailleurs d'avoir une armée de bras cassés complet avec la manière dont en 1914 et 1915, tous les généraux républicains pur sucre ont été évidemment les pires navets que la Terre ait jamais portés.
Oui. On sent l'objectivité.
Ouais, je me souviens de 1914.
En toute neutralité.
Ah, mais oui. Tous ceux qui commandaient en 14 n'ont pas commandé après, quoi.
Oui, c'est peut-être mieux.
Bah, en tout cas, dans l'affaire des fiches, il y a clairement eu une discrimination sur la base de la religion, comme on dit, oui. et des opinions politiques, puisqu'il s'agissait effectivement d'éliminer ce qu'on pensait ne pas être républicain. Et dans l'affaire actuelle, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la ministre des Armées, donc Catherine Vautrin, a publié un communiqué de presse où elle dit que, à ma demande, donc à la demande de la présidente de créer son école, elle diligente immédiatement une commission d'enquête administrative flash. Bon.
Alors ça veut dire quoi flash?
Rapide.
Qui doit donc rendre, ça ne prendra pas deux ans.
Voilà, rendre ses conclusions dans 10 jours. Elle a décidé de la confier à l'inspection de la gendarmerie pour éviter que ça soit l'armée de terre qui inspecte l'armée de terre, ce qui est quand même d'assez bonne. D'assez bonne augure, si on peut dire. Après, je ne sais pas qui compose exactement cette mission, et je ne sais pas du tout dans quelle mesure ils creuseront beaucoup. La tentation paraît assez forte de trouver un lampiste et de le faire sauter.
Alors, l'auteur du rapport, c'est l'actuel chef d'établissement du Prytanée, donc il s'appelle Jean-Marc Blondel. Est-ce que c'est lui qui pourrait être le fusible? Est-ce que c'est lui le responsable?
Alors, ce qui est certain, c'est que factuellement parlant, c'est lui qui a signé le rapport qui exclut les élèves. Ça, c'est clair.
Donc, sauf si ce n'est pas lui qui l'a écrit et qu'il ne l'a simplement pas relu.
C'est pas crédible.
Lui qui l'a écrit.
Je pense que c'est vraiment lui. Donc maintenant, il y a deux attitudes possibles. Soit ce sont ses propres convictions qui l'ont poussé à avoir cette attitude très militante et très discriminatoire et contraire à la loi.
Et illégal, oui, c'est ça.
Et illégal. Soit, en réalité, il a pris ça sur un fond... comment dire, politique plus large, d'incitation à faire le ménage dans l'institution en éliminant un certain nombre de personnes. Et c'est aussi tout à fait possible. Et on verra si la commission d'enquête est claire là-dessus. C'est pas du tout sûr qu'elle soit très claire là-dessus. Et moi, ce qui m'est revenu, parce que c'est assez amusant, en fait, quand vous médiatisez une affaire, toutes sortes de gens vous appellent, vous écrivent, vous donnent des témoignages, alors que vous avez le sentiment que jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et puis d'un coup, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un problème depuis des années, mais que personne ne savait très bien quoi faire, donc ils se taisaient. Et à partir du moment où vous dites, il y a un problème, on agit, on va le démontrer, d'un coup, les gens vous parlent. Et donc, parmi les appels, il y a eu un gradé de l'armée qui me disait qu'un général avait assisté à un discours de Le Cornu lorsqu'il était ministre de la Défense, lequel s'était vanté de mettre à l'écart... se serait vanté, hein, conditionnel, puisque ça m'est doublement rapporté, hein, par deux gradés, se serait vanté de mettre à l'écart les familles catholiques en considérant qu'il n'était pas question, alors ça me paraît une vision très désuète des choses, mais enfin, qu'il n'était pas question qu'un lycée public, donc gratuit, finance la scolarisation d'anti-républicains, sikhs, hein, donc on rêve un peu, parce que bon, les catholiques d'aujourd'hui, ils ne sont pas tellement anti-républicains en général, hein.
Surtout qu'il y a d'autres profils, parce que pour le coup,
là pour le coup, des anti-républicains, il y en a d'autres.
On part un peu de votre sujet,
Mais dans les l'armée des actuelle, anti-républicains, on en connaît quelques-uns. Quoi.
Oui, il y en a qui sont partis en Afghanistan, mais pas du côté français. Il y en a qui sont partis en Syrie, mais pas du côté français non plus. Donc l'armée d'aujourd'hui est essentiellement composée dans ses strates subalternes de jeunes qui viennent des banlieues. Et qui ne portent pas forcément la République dans leur cœur, puisqu'ils ont des motifs peut-être autres. Et là, c'est quand même inquiétant de savoir effectivement qui composera l'armée de demain, c'est ce que vous disiez.
C'est ça.
Et qui va les commander surtout.
Cela dit, ça fait penser à... Vous savez, dans chaque institution et dans chaque culture, il y a des effets d'hystérèse, quoi, des effets d'inertie. Et en particulier chez les francs-maçons, pour ne pas les citer, il y a des effets d'inertie qui sont tout à fait stupéfiants. Il y a quelques années, il y a peut-être 2 ou 3 ans, je suis allée à une tenue blanche. Vous avez, vous inscrivez.
Ça veut dire quoi?
Une tenue blanche, en fait, c'est une réunion de francs-maçons qui est ouverte aux profanes. Il suffit d'avoir la date et vous inscrivez. Alors,
c'est rigolo.
Première fois, je m'inscris sous mon nom actuel, je suis retoquée. Bizarrement, il n'y a plus de place. Je recommence au monde dans le jeune fille, et là, il y a de la place.
Il y a de la place.
Alors, j'y vais.
À quoi ça tient ?
Et ça portait sur l'éducation. C'est pour ça que je m'étais dit, je vais y aller. Et en théorie, c'était placé sous le haut patronage de, Jean-Michel Blanquer. Et donc, je vais à cette réunion qui était rue Cadet, donc au Grand Orient de France. Et puis, il y a des personnes, donc des frères et des sœurs, qui prennent la parole et qui expliquent leur vision des choses. Et il y avait le maire de Rheims, qui est une ville du Nord, qui se vantait d'avoir fait fermer une école tenue par des musulmans qui qualifiaient d'islamistes. Et il expliquait comment il s'y était pris, etc. Et là, une personne de l'Assemblée se lève et dit « Mais qu'auriez-vous fait si c'était une école catholique ?» Alors je me dis « Oh, ça devient drôlement intéressant !» Et la réponse « Mais je l'aurais fermé deux fois plus !» Bon. Et tout le monde d'applaudir. Et je me suis dit « Oula, ils n'ont pas du tout mis à jour leur logiciel
oui,
manifestement, au Grand Orient. Et on dirait qu'ils ont l'air au moins autant préoccupé de pourchasser l'influence des catholiques dans les institutions républicaines qu'ils ne sont préoccupés de lutter contre une certaine influence des frères musulmans en particulier ou islamistes dans les institutions républicaines. Donc ça m'a beaucoup frappée. Alors, je ne peux pas faire une généralité à partir d'une expérience, mais n'empêche que ce jour-là, je dois dire que je les ai trouvés formidablement décalés et inactuels dans leurs préoccupations et de leurs fixations.
Oui, ça en est presque comique.
Donc c'est bien possible que ce proviseur qui s'appelle Jean-Marc Blondel. A fait ce rapport parce que globalement il y avait un climat qui insistait à dire écoutez c'est pas normal qu'il y ait autant de catholiques qui deviennent officiers, qui fassent la corniche, qui deviennent officiers et qui ensuite encadrent l'armée, c'est déséquilibré, c'est plus représentatif de ce qu'est la société aujourd'hui, enfin je sais pas exactement quelle est la logique. Mais c'est bien possible que c'était un climat général.
Donc vous pensez que ça ne vise que les étudiants catholiques et pas forcément simplement ceux qui sont dans le hors contrat et qui pourraient justement être des musulmans.
En fait, à mon avis, ça vise les étudiants catholiques, oui. Et les étudiants catholiques qui ont cette passion un peu de servir, un peu romantique, vous voyez. Alors,
avec le chef et les rangers.
Voilà, oui. Alors ça c'est pas toujours très romantique, mais en tout cas qui veulent soit rentrer, je sais pas moi, servir comme infirmière ou médecin, soit servir dans l'armée, soit pourquoi pas rentrer dans les ordres, avec cette notion voyons, de vocation et de don pour le pays. Ça c'est quand même une vision catholique classique. Et je pense que cette approche-là déplaît.
Alors, ce qui est étonnant, qu'est-ce qui plaît, alors ? Pardon, c'est pas à vous de répondre,
mais
c'est quand même bizarre.
J'y suis pas.
Reparlons de Sébastien Lecornu. Donc, deux gradés vous ont rapporté qu'il voulait virer les catholiques de la carrière militaire.
Pas tout à fait. Ils ont rapporté qu'ils trouvaient qu'il n'était pas opportun que les familles catholiques, qui qualifiaient d'antirépublicaines, intègrent des lycées militaires, parce que tout est gratuit dans un lycée militaire. Et donc, il ne voulait pas qu'en gros, cette voie où la République finance en fait, la préparation des officiers de demain soit utilisée par des familles catholiques, et peut-être considérées comme très catholiques, je ne sais pas très bien comment ils les considèrent. Et donc, il trouvait que c'était inopportun et qu'il fallait donc renouveler tout cela. Ça, ce n'est que des choses qui m'ont été rapportées, donc guillemets. Voilà.
Alors, autre guillemets, là, c'est le ministère des Armées qui a répondu à l'affaire. En disant, je cite, hein, donc, tous les dossiers ont été examinés par la commission d'admission en classe préparatoire, l'appartenance à une école ou à un type d'école n'est en aucun cas un critère retenu, personne n'a été éliminé par principe. Alors, ça contredit un peu ce qui est écrit dans le rapport de M. Blondel.
Bon, d'abord, il y a une commission qui a lieu, donc on va la laisser travailler. Si les choses étaient si claires, jamais la ministre n'aurait diligenté une commission.
Oui.
Donc c'est bien qu'il y a quand même un problème. Et surtout, ça aurait pas été fait aussi vite que ça, alors qu'on est début juillet, on est la semaine du bac. Enfin, franchement, tout le monde a autre chose à faire.
Et donc, la ministre des Armées, c'est Catherine Vautrin.
Voilà.
Et elle, donc bizarrement, son ministère dit quelque chose et elle dit autre chose. En même temps, comme on dirait chez les macronistes, elle dit autre chose que son ministère. Elle dit que c'est une situation totalement inacceptable,
voilà.
Et que ça correspond à une initiative sans doute individuelle et isolée. Est-ce que c'est convaincant ou est-ce que ce n'est pas convaincant? Et en tout cas, elle ouvre cette mission flash. Donc,
bah, moi, quand j'ai envoyé les lettres, le soir même, j'ai eu un texto à 23h d'un des responsables de l'armée qui expliquait qu'il n'y avait aucune espèce de discrimination, qu'il n'y avait d'ailleurs aucun problème. Il circulait, il n'y a rien à voir. Donc je me suis dit, c'est bien, parce qu'à 23h, m'écrire pour qu'il n'y a aucun problème, c'est, que, c'est qu'il y a vraiment le sens de la conscience professionnelle. Bon. Donc, cette fébrilité, à mon avis, traduit le fait qu'il y a quand même un certain nombre de... Il y a un certain nombre de raisons de penser que les choses ne sont pas si carrées que ça. Sinon, il n'y aurait pas eu un traitement pareil.
Voilà. Alors, est-ce que ça ne concerne que le Prytanée ou est-ce qu'il y a d'autres cas concernés?
Dans le Prytanée, plutôt au Prytanée, nous avons la preuve écrite. Mmh. Alors, on peut toujours expliquer que c'est une coquille, comme le chef de corps avait dit, ou bien que c'est...
C'est quand même un peu bizarre.
Alors, c'est une grosse coquille, quand même. Donc, c'est assez difficile d'écrire par hasard et par inadvertance qu'on va exclure les élèves du hors-contrat.
Donc, c'est l'IA.
Bon, oui. C'est l'IA. Voilà, l'IA est orientée. Donc, voilà, donc, c'est assez difficile de dire ça. Donc, forcément, il y a bien eu un moment donné, soit une instruction diffuse, soit une instruction claire, soit une volonté personnelle du proviseur, pourquoi pas. Bon, voilà. Moi, je ne donne pas cher de sa tête. Cela dit, il va opportunément à la retraite au mois d'août.
Ah.
Donc, ça ne sera pas très coûteux pour l'armée. En plus, c'est un personnel de l'éducation nationale. Mmh. J'espère qu'en tout cas, ça ne s'arrêtera pas. Parce que si le rapport de l'armée, c'est juste de dire « Écoutez, on a bien enquêté et il y a un coupable, c'est ce monsieur qui a écrit n'importe quoi parce qu'il avait dû peut-être boire ce jour-là », je pense que c'est un peu léger. Ça fait vraiment le fusible.
Oui. Alors après, cela dit, on verra pour les années suivantes le nombre de jeunes qui seront recrutés.
Oui,
c'est-à-dire que c'est un dossier à...
On verra.
Désormais, alors, c'est un dossier à surveiller.
C'est ça. Et alors, là aussi, il faut savoir un peu lire les statistiques. Parce que dans la lettre que m'a adressée la ministre dit, écoutez, tout le monde, il y a très peu d'élèves qui rentrent. Il n'y a pas plus de 2% d'élèves qui rentrent dans leur contrat. Qui demandent à rentrer dans ces types de filières. Eh bien, 2%, en fait, c'est 4 fois plus que le nombre d'élèves qui sont dans leur contrat au niveau lycée. Donc, ça veut dire que la propension des élèves du hors contrat à demander à servir la France et à devenir officier, elle est 4 fois supérieure à la moyenne nationale. Donc, ça veut dire qu'on empêche ces élèves-là d'assouvir leur passion de servir la France. Oui. C'est quand même un peu embêtant.
Mais c'est surtout, moi j'avoue que ce genre de décision, on va parler tout à l'heure de l'Institut Thomas More et les 50 décisions les plus funestes qui ont été prises par nos politiques pour saborder le pays, mais là on se dit que c'est encore une de ces, on peut ajouter une 51e décision au rapport de l'Institut Thomas More. Pourquoi se priver d'une élite qui est volontaire, qui est dévouée? J'avoue que ça me sidère complètement.
Parce que c'est une élite, Arthur, peut-être.
Allez-y, oui.
Peut-être que c'est une élite. Et donc le problème, c'est quand vous avez des bonnes formations, vous formez à la critique, à la réflexion, à la culture, donc des gens qui rentrent pas, quoi, qui sont dans un moule, mais qui comprennent qu'ils sont dans un moule et donc ont une distance. Et ça, on n'aime pas trop ça en République, la distance. Mais je voudrais comprendre comment fonctionne le Prytanée. Donc le directeur, c'est un type de l'éducation nationale.
Oui.
Au-dessus de lui, c'est qui?
Il y a une double tutelle au Prytanée. Ouais. Donc en fait, il y a une tutelle de la défense et donc le chef de corps, c'est un colonel et il va diriger l'établissement et en particulier tout l'encadrement militaire. Et les élèves sont en treillis et ils participent à un certain nombre d'activités militaires, enfin, en tout cas mémorielles. Et à côté de lui, il y a un proviseur qui est détaché de l'éducation nationale, qui fait tourner la partie académique et notamment qui gère toute la partie Parcoursup.
D'accord. Donc on peut, en vous écoutant, si je dois résumer à mes enfants ce soir ce que j'ai compris du sujet, c'est les francs-macs résonnent comme des boomers des années 70, les catholiques sont les méchants, font les dégager. J'ai deux témoignages de copains que j'ai découverts francs-maçons qui sont barrés du Grand Orient parce que justement ils en avaient marre que nos amis francs-maçons désignent les catholiques comme ennemis, ils ne parlent pas de l'islam. Mes amis francs-maçons étant plus islamophobes qu'anticléricales aujourd'hui, étonnamment. Mais donc, si je comprends bien, de ce que j'ai compris, de ce que je dirais à mes enfants, c'est les francs-maçons veulent virer les catholiques parce qu'ils pensent encore que c'est le danger numéro un pour la République et donc pour la France. Le directeur en question qui part à la retraite dans un mois a obéi sur ordre direct ou... à force de patauger dans le même marécage, pense comme les autres. Mm. Donc les autres au-dessus, militaires compris, sont très bien contents qu'ils fassent le sale boulot. Et l'enquête flash, c'est juste pour le temps qui sépare aujourd'hui de la retraite de ce monsieur-là. Et puis ça fera l'affaire, quoi.
C'est une interprétation, en réalité, c'est très plausible, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il en est, parce qu'il faut être précis, je veux dire, la vérité, elle a un visage, elle n'en a pas 50, donc je ne sais pas exactement s'il y a eu des ordres, pas des ordres, si c'est parce que c'est une logique de franc-maçonnerie ou pas du tout. Parfois, c'est des logiques de vendetta humaine, très humaine, trop humaine, voilà, on ne peut pas savoir.
Et, pardon, est-ce que l'on sait si c'est un cas unique, par exemple, ou est-ce que l'an dernier, le rapport qui a été écrit par ce monsieur Blondel, ce rapport, il l'écrit tous les ans, ou est-ce que, est-ce qu'on sait si les années passées...
En fait, ça fait 2 ans qu'il y a ce problème.
Et qu'il y a cette mention, donc.
L'an dernier, apparemment, il y a eu un élève qui a été admis, mais pour moi, ça vaut pas preuve qu'il n'y avait pas de discrimination, ça vaut preuve peut-être qu'il y a eu un coup de piston pour quelqu'un.
Oui. Mais est-ce que la figure, enfin, le fait que ce soit une mention, un critère éliminatoire, existait dans les rapports antérieurs.
Alors, on n'a pas accès aux rapports antérieurs. Parce
et on peut y avoir accès par la commission, la mission flash de Catherine Vautrin.
Peut-être. Mais en tout cas, apparemment, ça fait 2 ans qu'il y a un problème et ces problèmes n'existaient pas avant. Par ailleurs, au lycée, donc il y a 6 lycées militaires en France, au lycée militaire d'Aix-en-Provence, on m'a rapporté que le proviseur, lors de la réunion avec les parents d'élèves, avait expliqué qu'il ne prenait pas d'élèves du hors contrat.
Mais comme ça,
c'est oral.
Oui.
Et personne n'a enregistré. Donc voilà. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu à un moment donné une forme d'ordre pour expliquer que c'était pas là qu'il fallait recruter les élèves. Ouais. Voilà.
Alors, vous appuyez un recours, donc, et il y a d'autres élèves qui sont concernés potentiellement. Je crois que vous en avez retrouvé une liste, un certain nombre en tout cas, qui ont été discriminés. Peut-être que parmi les auditeurs de Radio Courtoisie, il y en a d'autres. Oui. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter d'une manière ou d'une autre ?
Il faut qu'ils le fassent, franchement, parce que donc, je vais rencontrer le responsable de la mission Flash mercredi. Et donc, je vais lui apporter la liste des élèves que je sais avoir été barrés à l'entrée. Alors, peut-être certains ont-ils le niveau pour intégrer Britannée, d'autres pas. Ça, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas... Il semblerait que leur dossier n'ait pas du tout été étudié. Il était, comme on dit dans le jargon, non classé. Et donc, le but, c'est que j'arrive avec tous les dossiers possibles des jeunes issus du hors-contrat qui n'ont pas été classés parce qu'ils viennent du hors-contrat. Et donc là, effectivement, il faut me contacter. J'ai envoyé un mail à la totalité des lycées hors-contrat aujourd'hui. Mais faut-il encore, c'est début juillet, etc., que ça aille assez vite. Donc il faut me contacter et donner le numéro de matricule sur Parcoursup, prénom, nom, date de naissance, et quelle est la prépa qui a été visée, pour que je puisse apporter ça mercredi, en début d'après-midi, à Ballard, au ministère de la Défense.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre ?
Eh bien, le plus simple, alors, tous les réseaux sociaux possibles fonctionnent avec moi, mais en tout cas, ce qui peut être très simple et classique, c'est le mail, donc anne@educfrance.org. Educ, E-D-U-C, F-R-A-N-C-E.org.
Entendu. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à contacter la radio et nous transmettrons donc à Anne Coffinier. Alexis Poulain avait une question ou une remarque pour vous, Anne Coffinier.
Oui, c'était une remarque sur le dévoiement de la... Oui, alors il faut mettre le... C'était une remarque sur le dévoiement total de la laïcité ou un retour à la laïcité laïcarde des années 1900, c'est-à-dire que là, on voit vraiment un changement total et radical, sans doute aussi lié à Emmanuel Macron, aux différents ministres de l'éducation. Comment se fait-il que ce soit possible et combien de temps, en fait, ça a duré ? Parce qu'on se rend compte de ce scandale, mais j'imagine que l'ampleur du scandale est beaucoup plus large.
Je ne suis pas capable de vous répondre là-dessus. Ce qui est certain, c'est que dans l'armée, par exemple, alors moi j'ai été diplomate avant, donc j'ai eu l'occasion de le voir, dans l'armée, il y a différents courants, il y a différentes coteries, de la même manière qu'il y en a aussi au ministère des Affaires étrangères. Et dans les coteries bien connues, il y a d'un côté un sort de courant, on va dire, catholique assez, pratiquant, on va dire, et de l'autre côté, il y a un courant franc-mac.
Très pratiquant.
voilà, et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Ouais. Et donc, dans les avancements, etc., chacun pousse plutôt les gens de son camp. C'est un peu comme ça que ça se passe. Mais moi, je pense que la République doit faire en sorte que lorsqu'on forme les jeunes destinés à des officiers, on ne prenne pas en compte ces considérations. La loi prévoit que le mérite académique est le seul critère admissible. Si vous commencez à trier les gens sur leur religion, leur origine scolaire, le nom de leurs parents ou que sais-je, c'est fini. Il n'y a plus d'égalité. Il n'y a plus d'état de droit, en réalité, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça que je me bats, parce que moi je ne veux pas rentrer dans la question des causes, si vous voulez. J'ai ma petite idée sur la question, mais je me méfie aussi de mes petites idées, parce qu'il y a la grande histoire, la petite histoire, et parfois la petite histoire est toute bête et n'a pas grand à voir avec les grands mouvements, si vous voulez. Ouais. On n'est pas toujours dans du bloc avec les grands mouvements, etc. Il y a la réalité aussi toute simple, qui est que parfois ça tient à pas grand-chose, quelqu'un qui veut se venger d'autre chose, enfin bon, voilà. Donc on verra bien. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut être vigilant. Et c'est pour ça que je mène cette action, parce que plus nous serons vigilants pour défendre les droits légitimes, que ce soit des catholiques, que ce soit des élèves issus du hors-contrat, il y a, encore une fois, dans le hors-contrat, il y a toutes sortes de hors-contrats. Par exemple, parmi nos adhérents, il y a des écoles qui sont spécialisées dans la scolarisation de sportifs à haut niveau. Vous avez des champions de taekwondo, champions européens, etc. C'est évidemment très intéressant que ces profils-là rentrent dans l'armée s'ils en ont envie, vous voyez. Et là, aujourd'hui, avec le règlement qui est en place, ils ne peuvent pas. Donc, vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, moi, je me bats pour que...
Pourquoi ils ne peuvent pas, alors
parce qu'ils sont hors contrat.
Ah oui, mais enfin, ce n'est pas un règlement, c'est juste cette mesure discriminatoire.
Mais il y a d'autres domaines. Je vous donne d'autres domaines de discrimination qui sont scandaleux et sur lesquels j'ai fait des procès que parfois j'ai perdus, alors qu'on a, je pense, évidemment raison. Aujourd'hui, les élèves issus des établissements hors contrat ne peuvent pas passer le concours général des lycées. Ils sont non éligibles. Peuvent pas.
Il y a une raison ?
La raison mise en avant par le Conseil d'État, c'est de dire que comme ces établissements ne sont pas dans les mêmes conditions que les autres, puisqu'ils sont libres de leur corps professoral et de leur programme, ce n'est donc pas une rupture d'égalité que de les éloigner d'un concours. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement de préjudice, puisque ce concours donne à rien, si ce n'est à l'honneur et au prestige.
Imaginez que ce soit des gamins du hors-contrat qui gagnent le concours, ça ferait
ça serait gênant.
Voilà, donc par exemple, là, c'est un cas qui est quand même frappant de discrimination, dont on ne comprend pas bien la logique. Bon, on comprend bien la logique, et celle qu'a expliqué évidemment Arthur.
Il y a un truc que je comprends pas, moi, je comprends la lutte contre leur contrat, parce que pour certains, laïcs honnêtes, ils veulent et désinguer les cathos et désinguer les musulmans. Voilà, ils sont carrés là-dessus.
Ils désinguent l'école libre.
Mais ça n'existe pas, l'école libre, c'est l'école républicaine. Donc c'est la République, et la République, c'est eux. Donc, d'autres, évidemment, veulent se farcir les cathos parce qu'ils sont encore dans des combats d'arrière-garde. Mais je comprends pas pourquoi, ils pourraient très bien. Le faire tout en récupérant les méthodes. Parce qu'ils voient bien que les méthodes du hors-contrat peuvent fonctionner, ont parfois des résultats plus intéressants, aident à faire grandir les enfants, les poussent un peu. Je comprends pas, c'est qu'ils mettent tout dans le même sac, comme si des types étaient complètement aveugles. C'est au nom de l'idéologie, on veut les désinguer parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal républicain, et en même temps, on va déglinguer des méthodes qui fonctionnent aussi et qu'ils reconnaissent même comme pouvant marcher, parce que dès que ça marche, ça les agace encore plus.
Alors là, à mon avis, sur ce sujet-là, il n'y a pas les deux phénomènes à la fois. Si vous prenez un établissement comme le Prytanée National Militaire, c'est un établissement qui applique des méthodes qui ne sont pas très éloignées des méthodes hors contrat. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont tout, ils n'ont pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça je ne pense pas. Après, que globalement, une partie des gens qui ont une influence en France ne veulent pas reconnaître que certains choix idéologiques et pédagogiques ont eu des fruits vraiment amers, et il reste fidèle à ces approches qui sont, hélas, tout à fait désastreuses et nuisibles. Ça, c'est clair. Et en fait, moi, j'ai remarqué, quand vous avez des conseillers qui sont à l'Élysée depuis assez longtemps ou qui sont dans certains ministères comme le ministère de l'Éducation nationale depuis longtemps, et qu'arrive le temps des conséquences de leurs propres inepties, mais ils ne vont tout simplement pas reconnaître qu'ils se sont plantés. Et je me souviens de quelqu'un, alors je peux en parler parce que maintenant, il est mort, mais il y avait Christian Forestier. Christian Forestier, c'était un conseiller qui a été dans tous les gouvernements successifs de l'éducation nationale. Et il poussait toujours le même type d'idées. Que ça soit à droite, à gauche, il était toujours là. Et donc, il ne faut pas compter sur des gens aussi puissants, avec autant de réseaux et aussi constants dans l'état profond, pour au bout d'un moment dire, par exemple, sur la méthode globale, on s'est trompé. Parce que tout le monde voyait bien qu'on s'était trompé sur la méthode globale. Et personne n'en tirait les conséquences. Donc, il arrive un moment où l'idéologie est une sorte de seconde nature dont vous ne pouvez plus vous départir. Voilà, donc moi je vois ça comme ça. Et puis alors, il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est que, et là je pense que c'est assez important, c'est ce que je veux dire, si je puis me permettre, c'est que les pseudo-élites actuelles sont assez conscientes qu'il y a une décadence intellectuelle de leurs enfants, de la génération de leurs enfants. Elles le savent, elles le voient. Les enfants ne lisent plus, ils sont un peu abrutis par les écrans. Il y a d'une manière générale un laisser-aller sémantique, linguistique, culturel, enfin de tout niveau. Et en même temps, ils veulent quand même que leurs enfants restent fassent partie des élites et restent sur le haut du panier. Alors comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, en fait, on fait une sécession scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte que l'essentiel des autres enfants barbotent dans des établissements qui ont renoncé à tout, tandis que les élites, elles, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles mettent leurs enfants à part. Alors, à part, ça veut dire quoi ? Dans les quelques bons établissements publics, privés sous contrat et privés hors contrat, et à l'étranger, et avec des répétiteurs, des choses, etc., en plus. Donc, en fait, elles prêchent au bon peuple le fait de rester à barboter dans l'école publique gratuite, laïque, obligatoire, mais elles s'en dispensent complètement. Et elles font ça avec d'autant plus ardeur qu'elles ne croient pas à la concurrence républicaine, elles ne croient pas à la méritocratie, elles ne croient pas au fait de renouveler les élites. Elles pensent qu'en fait, elles sont en décadence, mais qu'elles veulent rester à la place. Et c'est ça qui fait que notre État est en train de pourrir actuellement, de mon point de vue. Il n'y a plus de renouvellement des élites. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est bosseur, qui a du mérite et qui part de la base, qu'il soit issu d'immigration ou qu'il soit issu de classe populaire, hein, j'ai envie de dire d'origine française sur plusieurs générations, c'est horriblement difficile d'arriver à monter aujourd'hui. Quand vous prenez le massacre du baccalauréat, par exemple, vous voyez le baccalauréat, Jean-Michel Blanquer a fait en sorte qu'il soit passé essentiellement au contrôle continu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire forcément qu'il y a une pression très forte sur les professeurs, donc tout le monde a des notes faramineuses, donc tout le monde a des mentions, des 20 sur 20 de moyenne, des 18 sur 20, on arrive à des notes absolument...
21 sur 20.
Voilà, des notes complètement délirantes. Et qu'est-ce qui se passe avec ça ? Bon, d'abord, c'est le règne du mensonge, donc on apprend aux jeunes qu'on vit, qu'on barbote dans le mensonge, donc déjà ça crée, à mon avis, un espèce de drame intérieur qui est grave et lourd de conséquences. Mais en plus de ça, on se rend absolument incapable de détecter les talents. Parce que des gamins qui sont bons, qui sont au fin fond d'un établissement public ou sous contrat, au fin fond de la campagne, comment vous voulez les repérer ? Vous ne pouvez plus les repérer.
Alors comment est-ce que vous expliquez justement cette espèce d'enfermement et d'enfermement dans cette logique de médiocrité et de pas de vague, littéralement. C'est-à-dire on surnote tout le monde, on fait passer tout le monde à la classe supérieure jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse enfin. Comment est-ce que vous voyez ça ?
Ben, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire que les élites roulent pour elles-mêmes.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une dimension économique ? C'est-à-dire, si on fait redoubler, ça veut dire qu'il y a un engorgement de classes, donc il faut créer plus de classes, donc il faut payer plus de profs.
Oui, mais ça, je veux dire, en fait, regardez par exemple l'accès au supérieur. Aujourd'hui, accèdent au supérieur des élèves qui n'ont pas le niveau. Donc, on voit bien parce que...
Et avant, l'écrémage se faisait en première année, maintenant, ils se font en licence, quasiment.
Oui, licence, maîtrise, parfois même doctorat. Enfin, on en arrive à des folies par rapport à avant. Pourquoi ? Parce que finalement, les professeurs de l'université qui enseignent dans ces premières années, ils savent bien que le niveau est nul, ils savent bien que c'est un scandale, ils savent bien que c'est mentir à tout le monde que de prendre ses élèves et leur faire croire qu'ils vont accéder à une sorte de vie universitaire, une vie de l'esprit, etc. Mais c'est leur business. C'est leur cours, c'est leur carrière, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir à traiter des milliers d'élèves que d'en traiter quelques dizaines. Donc eux-mêmes deviennent finalement intéressés
complice d'un système, oui.
à la massification avec une espèce de fuite en avant, tout simplement, parce qu'en fait, ça fait tourner la machine, de la même manière que le dentiste est intéressé à ce que les enfants mangent des chocolats et des bonbons, que les boîtes qui font du soutien scolaire le soir soient intéressées à ce que l'éducation nationale continue à barboter dans des méthodes ineptes. Au bout d'un moment, il y a des intérêts objectifs de personnes qui vivent de la destruction du système principal.
Arthur de Vatrigan.
Je vais revenir sur le contrôle continu, parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Et je ne partage pas complètement votre avis, mais je méconnais plus le sujet que vous, évidemment. De ce que j'ai compris, c'est le problème du contrôle continu, c'est que ça a poussé les profs à surnoter toute l'année. C'est ce que vous disiez.
En fait, il y a deux problèmes. Le premier problème du contrôle continu, c'est que les élèves ne font... Alors, il y a un aspect positif, c'est qu'en fait, on peut répartir son effort tout au long de l'année, puisqu'on est noté tout le temps. Ça, c'est quand on est bien noté.
Et ça, c'est bien, ça.
Quand on est noté correctement. Mais quand vous êtes dans des établissements... où le professeur subit les pressions des parents d'élèves et des élèves qui leur disent « tu vas ruiner notre avenir en nous mettant une sale note, si tu veux nous donner la possibilité d'avoir un avenir, il faut nous mettre une bonne note », eh bien du coup la note n'est plus du tout là pour évaluer dans l'absolu le niveau d'un élève et l'inciter à faire plus d'efforts pour être capable, pourquoi pas, le jour de l'examen final, d'être au niveau, de briller, puis ensuite de faire des belles études et d'accéder à son métier, le métier auquel il aspire. Non, en fait, le fait d'avoir des bonnes notes, ça devient un impératif immédiat et négociable avec les parents, avec les élèves, avec parfois des pressions qui sont très très concrètes. C'est des pneus crevés, c'est des menaces. Et c'est aussi un système désormais qui est très souvent hacké. Il faut savoir que les piraté, systèmes de notes sont très souvent hackés et piratés, oui. Pardon, excusez-moi. Je vais mettre de l'argent dans le cochon, comme à la grande époque. Et donc, effectivement.
Le cochon est beaucoup plus gros.
Oui, il y a deux cochons en plus.
Il y a beaucoup plus d'anglicisme.
C'est vrai. C'est vrai.
Il y a un TPE dans le cochon.
Oula. Et donc, effectivement, il y a la tricherie massive sur les notes de contrôle continu. Et ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que les élèves qui viennent soit de l'école à la maison, soit qui passent le bac sur le tard, vous savez, il y a toujours eu ces fameux candidats qui passaient le bac à 60 ans, et qui disaient, après tout, je suis capable de le faire. Et c'était quelque chose de très beau. C'était une espèce de moment national où on était unis autour de l'idée d'arriver à passer le bac, quel que soit le passé qu'on avait pu avoir, les études qu'on avait pu faire, tout ça. Donc tout ça, maintenant, est fini, parce que le malheureux élève qui soit vient de nulle part, soit a fait l'école à la maison, soit vient d'une école privée hors contrat, qui pourtant est très très contrôlée, parce qu'aujourd'hui les écoles privées hors contrat sont très contrôlées, beaucoup plus que tous les autres établissements. Eh bien lui, on lui dit, mon cher ami, eh bien pour avoir le bac, il faut passer entre 14 et 16 épreuves terminales. Et alors que tes petits camarades qui sont dans les établissements publics, ils passent entre 4 et 6 épreuves terminales. Donc on en passe 10 de plus.
Oui, parce que comment dans le privé, c'est...
Le principe d'égalité,
le privé sous contrat, c'est pareil que le public.
Ah d'accord.
Oui, mais là, le fameux principe d'égalité, il n'est pas broyé.
Alors nous avons fait un recours avec 300 requérants à peu près, et nous avons perdu le recours, toujours selon la même logique faramineuse, qui est de dire que comme vous n'êtes pas dans la même situation, puisque vous êtes libre de vos programmes, n'est-ce pas, eh bien on peut vous traiter différemment, et même on doit vous traiter différemment. Et donc vous passerez le bac avec 16 épreuves, pendant que les autres passent le bac avec 6 épreuves. Et en plus, vous les passez à part, puisque nous sommes les seuls à passer ces épreuves. Donc forcément, on est stigmatisés. Et en plus, comme les professeurs voudraient partir en vacances, mais qu'ils sont obligés d'être là à cause du bac des élèves du hors contrat, autant vous dire qu'ils sont très bien disposés.
C'est horrible. Richard de Sèze.
Non, mais je voulais vous demander tout à l'heure un autre exemple de discrimination. Merci, vous l'avez fourni tout de suite. Je voudrais savoir comment créer son école, qui est votre association, peut aller en justice. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde en droit le fait que vous avez le droit d'ester ?
Alors, en tout cas, on est en justice depuis 2006. Et jamais notre intérêt à agir n'a été contesté. Alors, une des raisons, c'est que nous avons des membres, et les membres sont les écoles privées hors contrat. Donc nous avons une sorte de rôle d'organisation professionnelle.
D'accord.
Et par ailleurs, en général, nous allons aussi en justice en emmenant avec nous, ou eux nous emmènent parfois avec eux, ça dépend, eh bien l'organisme professionnel qui représente les employeurs du hors-contrat, qui s'appelle la FNEP, la Fédération Nationale d'Enseignement Privé. Et donc là, pour être très précis juridiquement parlant, nous sommes intervenants au recours, nous ne sommes pas requérants. Ceux qui sont requérants, ce sont les familles, donc les enfants majeurs eux-mêmes, ou les parents lorsqu'ils sont, les enfants sont mineurs, et nous intervenons au recours. Et en l'occurrence, nous le finançons, parce que les familles n'ont pas forcément, ce sont des familles nombreuses, n'ont pas forcément les moyens.
Alors le recours permet quoi justement ?
Alors le recours que nous avons déposé s'appelle un recours mesure utile, un référé mesure utile, et ça c'est très simple, ça enjoint sous astreinte l'administration de dire pourquoi elle a recalé les élèves. Et à partir du moment où on a la notification d'un motif, eh bien si ce motif n'est pas légal, juste, proportionné, bien justifié, enfin ce qu'on veut, eh bien, dans ce cas-là, on a tout à fait la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir, donc ça c'est un recours au fond, et que nous assortissons, parce qu'il faut être prêt, on est pressé, d'un référé suspension, pour suspendre les effets, en fait, de cette décision mauvaise, ou en tout cas qui paraît très fortement, en tout cas qui paraît très fortement suspecte d'être illégale. Donc si on a un doute sérieux sur la légalité d'une décision, dans ce cas-là, le juge décide de suspendre son effet, le temps que ça soit traité au fond, en gros 2 ans. Et donc ça veut dire que les élèves feraient leur scolarité pendant que le dossier serait traité au fond.
D'accord. Et là, est-ce que vous pouvez attaquer en justice au-delà ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de grave, non ? Il y a une discrimination pour le coup
Alors, il y a certaines organisations qui nous ont contactés qui voudraient attaquer au pénal.
Oui.
Alors, on n'en a pas encore discuté parce que là, on était pressés de travailler sur cette question-là pour aider les élèves eux-mêmes. Parce que c'est bien beau de faire des procès généraux, mais ce qu'on veut, c'est aider les élèves qui ont un rêve, qui souvent ils portent depuis l'enfance, qui est de devenir un jour officier et servir la France sous les drapeaux. Soit on agit suffisamment vite pour que leur rêve se réalise, soit c'est fini pour eux. C'est pour ça qu'on est si pressé et qu'on est si concentré sur cet enjeu-là qui est très précis et qui est à leur service.
Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions sur l'affaire du Prytané. Alors, Alexis Poulain ?
Non,
ça va. Alors moi, je voulais revenir justement sur vous, Anne Coffinier, parce que vous avez...
Alors, je ne suis pas militaire.
N'êtes pas militaire, mais vous avez été diplomate.
Oui.
Je crois que vous êtes énarque et normalienne, ce qui fait un parcours... plutôt solide.
C'est douteux selon Arthur.
Oui, c'est ça, vous ne pourriez plus intégrer aujourd'hui les grands corps républicains puisque vous êtes un peu louche. Mais qu'est-ce qui vous a justement donné envie de fonder, créer son école alors que vous aviez pour le coup justement un parcours de diplomate tout tracé et précisément dans les grands corps de l'État.
Eh bien, il se trouve que je me suis convertie au catholicisme, ou plutôt reconvertie au catholicisme quand j'étais à l'ENA. Donc comme quoi, c'est un lieu où toutes sortes de choses arrivent.
Hyper fort, le Jésus.
Très fort. Ça apaisait modérément, d'ailleurs, la directrice de l'ENA de l'époque, qui était Marie-Françoise Bechtel. Et donc, j'ai fait l'ENA avec un sacré cœur au revers de ma blouse, ou ma chemise, comme on veut. Et donc, et en plus, j'avais fait une autre chose aussi qui était tout à fait obscène, c'est carrément le terme, c'est que j'ai passé l'ENA et j'ai accouché 15 jours après le grand oral de l'ENA. Alors pareil, ça ne se fait pas du tout. C'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, oui, diplomate, c'est très bien. En plus, je m'étais mariée à un diplomate, donc c'est quand même plus simple. Et puis, j'ai commencé à travailler dans la diplomatie. Alors, la matière est passionnante. Hein. Mais
vous étiez où ?
Alors, je me suis occupée d'abord d'Afrique. Je me suis occupée de l'opération Artemis en Ituri. Puis, je me suis occupée après de la Constitution européenne. La fameuse traité constitutionnel européen. Voilà, puis entre-temps, j'ai fait quelques enfants, j'ai eu la tuberculose, enfin, j'ai eu toutes sortes de...
Des enfants et la tuberculose.
Oui, d'activités, dans l'ordre que vous voulez. Et en parallèle, donc, en 2005, j'ai créé son école, parce que je me disais, c'est quand même là qu'il y a le plus d'impact sur la société, et c'est fou qu'en France, il n'y ait pas vraiment de choix. On s'est battu en 1984 pour avoir un choix, et on l'a largement perdu parce qu'il y a une sorte de lyophilisation. Si, j'espère que je ne vais pas avoir de pièces à mettre dans le cochon.
Non, c'est français, ça.
Il y a une sorte de lyophilisation qui a eu lieu. Et à mon goût, il y a une sorte de banalisation dans l'enseignement privé sous contrat, largement.
Ah bah bien sûr, qui devient un peu l'enseignement public
Et donc,
payant,
je me suis dit, finalement, où est le choix ? Où est le choix ? Et on a besoin d'une diversité. Tous les enfants ne sont pas faits pour être dans le même moule du tout. Et on a besoin de ça, et on n'a pas cette diversité. Et c'est vrai qu'en étant diplomate, en plus, dès que je vais dans un pays, je visite les écoles. Alors mes enfants s'en plaignent beaucoup d'ailleurs, mais enfin, c'est comme ça. Et donc, je vois bien qu'on peut faire plein de choses différentes et que c'est passionnant. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'aider mon propre pays à avoir meilleures écoles, plus diverses et plus accessibles financièrement. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à l'idée qu'il fallait faire une fondation, etc., etc.
Alors, oui, donc vous avez aussi dirigé la Fondation pour l'école pendant près de 10 ans. Mmh. Ensuite, vous avez fondé la Fondation Kairos.
Kairos, oui.
Donc,
que je dirige actuellement.
Que vous dirigez
toujours. Et qui est à l'Institut de France.
Ouais. Avec Xavier Darcos.
C'est ça. Xavier Darcos, c'est le président. En l'occurrence, il est président par nature, puisque la Fondation est hébergée à l'Institut de France. Et que lui est le chancelier. Et donc, il est le président de toutes les fondations hébergées à l'Institut de France.
D'accord. Et quelle est la mission de cette Fondation Kairos ?
Alors, la mission de cette Fondation Kairos, c'est d'essayer d'améliorer l'éducation, tout simplement. Et alors, d'un point de vue intellectuel, en faisant des colloques. Bon, par exemple, on a fait des colloques qui étaient importants, à mon avis, sur comment on fait pour sauver l'école en ruralité, comment on fait pour transmettre aussi les métiers manuels. C'est quelque chose qui, en France, ne marche pas bien, comparé à l'Allemagne ou à la Suisse. Voilà, donc on fait des colloques de ce genre-là. Et là, on fait un colloque à la rentrée sur la méritocratie. Comment on fait pour renouveler la méritocratie à un moment où plus personne ne s'intéresse ni à ce concept, ni à cette idée, ni à rien du tout.
Oui, et d'ailleurs, la preuve avec le Prytané.
Ouais, la preuve avec le Prytané. Voilà. Et puis, on travaille plus largement. Donc, dans la perspective des élections présidentielles, on veut absolument pousser les candidats à prendre en considération l'éducation. Parce que moi, je fais le tour des candidats. Alors, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, mon tour, c'est un tour de France maintenant. Mais bon, j'aimerais bien quand même qu'ils arrivent à se décider pour que ça soit moins fatigant. Mais bon, je fais le tour des candidats. Et les candidats disent, ah oui, oh, très important, l'éducation, très important. Oui, vous comprenez, on n'a jamais gagné une élection sur l'éducation. Et j'ai dit, mais ça change. Tout change. Il n'y a jamais eu d'IA avant, bah maintenant il y a l'IA. Oui.
Et puis on peut légitimement s'inquiéter pour l'avenir de tes enfants aujourd'hui.
Voilà, c'est... l'éducation, grosso modo, ça marchait avant. Aujourd'hui, c'est devenu un problème qui crucifie les gens dans leur chair. Je veux dire, ils voient des enfants harcelés. Regardez la réalité du harcèlement. Regardez la réalité du drame du périscolaire, de la violence sexuelle, de toute nature à l'égard d'enfants. Aujourd'hui, il y a un véritable drame de la jeunesse. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse comme si, non, c'est pas grave, puis de toute manière, les gens votent pas là-dessus, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, mon rôle à moi, avec plein d'autres gens, j'imagine, j'espère, c'est de faire en sorte que les hommes politiques s'occupent de ça, et en particulier qu'ils sortent un peu de toujours leur même recette, notamment à droite. Vous discutez avec les gens de droite, ils vont vous dire, oui, alors il faut retour aux fondamentaux. Alors, bah oui, lire, écrire, compter, calculer, oui, bien sûr, sauf que ça fait 30 ans qu'on dit ça. Hein. Et puis, il faut plus de discipline, plus d'autorité. Ah bah oui, ça c'est dans toute la société, mais manifestement, la pensée magique étant ce qu'elle est, ça va peut-être pas suffire.
Hamza Ladouane en est la preuve quotidienne.
Hamza Ladouane, avec son pistolet à eau, qui régit le canal Saint-Martin, a bien compris ce qu'était l'impunité en France, et comme il est conséquent, ce garçon, bah voilà. Ouais. Donc, la situation, elle est assez simple. Soit on continue avec les mêmes idées éculées et on n'arrivera à rien, soit, comme on dit aujourd'hui, c'est le grand mot à la mode et je trouve ça tout à fait ridicule, on renverse la table, n'est-ce pas ? Oui. Tout le monde a renversé la table, donc on ne sait même plus de quel côté elle est, cette malheureuse table. Enfin, en général, ils retournent le renverse, mais maintenant, ils renversent la table aussi. Eh bien, il faut simplement rendre le choix aux gens de l'école. C'est-à-dire, vous choisissez l'école que vous voulez, publique, privée, sous contrat, hors contrat, en France, peu importe. Vous avez le droit de choisir l'école de votre enfant.
Alors, on reviendra peut-être sur la présidentielle juste à la fin, mais entre-temps, on a le droit de choisir l'école que l'on veut pour ses enfants, mais, en tout cas, c'est une image qui peut circuler, c'est peut-être un cliché, hein, et je suis sûr que vous allez me dire que c'est un cliché, mais on se dit que l'école libre hors contrat, c'est pour les riches, c'est-à-dire il faut des sous. Pour payer ça.
Justement, c'est pas complètement faux aujourd'hui. C'est-à-dire que l'école privée hors contrat et même sous contrat dans les grandes villes, c'est une école qui est quand même chère. D'autant plus que, en tout cas pour l'instant, l'enseignement privé catholique sous contrat fait pas tant que ça de réduction au regard des ressources financières des enfants. C'est en train de changer. Mais c'était pas tellement le cas jusqu'à présent. Donc c'est vrai que ça reste un problème. Mais c'est lié à quoi ce problème ? C'est tout simplement parce qu'on a décidé à un moment donné que l'école privée serait payante et que l'école publique serait gratuite. C'est un pur choix alors que tout le monde paie des impôts et que nous sommes tous citoyens. Donc en gros, on a accepté à un moment donné qu'on serait discriminé et qu'on trouvait ça très bien. Mais ça n'a aucune logique. La seule logique, c'est de donner l'argent à la structure qui est choisie par les parents et qui fonctionne. Il y a un double critère. Est-ce que les citoyens l'ont choisi ? Et est-ce qu'il y a du résultat pour les enfants ? Aujourd'hui, on ne tient pas compte du choix des parents, puisqu'on dit non, il y a à peu près 65% des parents qui voudraient aller dans le privé. On dit très bien, il y aura 17%. C'est comme ça.
Et parce qu'il y a un quota, en fait.
Il y a une espèce de quota non dit.
20-80.
Théoriquement, 20-80, ça ne correspond à aucune loi, c'est une pratique occulte qui est devenue 17-17,5%. Voilà, c'est comme ça, ça pourra descendre encore plus.
Il y a 17,5% de places disponibles.
Voilà, grosso modo. Et alors, aujourd'hui, vous avez bien compris qu'on... On perd des places, donc on doit fermer des classes. Mmh. Et alors dans ce cas-là, on arrive à un truc extraordinaire, c'est que l'État fait fermer des classes qui sont pleines, dans le privé, puisqu'il faut, il faut garder le même rapport.
Le ratio, oui.
Hein, donc si on vous fait fermer 100 classes dans le public, on va vous en faire fermer 20 dans le privé. Et si ces classes sont pleines avec liste d'attente, on s'en moque.
Et là, il n'y a pas de recours.
Ah ben non, il n'y a pas de recours, c'est la décision de l'État. Le recours, il est politique. Il faut arriver au pouvoir, c'est tout.
Moi, il se trouve que j'ai été prof. Il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans.
On ne sait pas quel métier n'a pas fait Pierre-Alexandre.
Ah, oui. à chaque fois, il a été un truc, oui, incroyable.
Marin, voilà.
Je crois que peut-être footballeur, il n'a pas essayé.
J'ai été prof quand même, et notamment dans le hors-contrat. Et je me souviens très très bien qu'on avait quelques élèves qui étaient vraiment des mauvais élèves, qui étaient des racailles, pour dire les choses très simplement. Mmh. Une qui était fort sympathique d'ailleurs, mais qui passait en procès notamment parce qu'elle agressait les gens à coups de marteau.
Et, ah bah sympathique ouais.
Et la scolarité de ces jeunes était payée par le conseil régional, un truc comme ça. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas
vous
des...
Étiez, là, vous étiez dans le public ou dans le privé?
Non, privé hors contrat.
Ah, donc c'était des jeunes de l'ASE, non? Même pas.
J'avoue que ça fait tellement longtemps que je ne sais plus. Mais
en général, c'est le cas, si c'est payé par le...
Alors, c'était seulement quelques-uns. C'est-à-dire que majorité de la classe payait sa scolarité avec ses parents, mais il y en avait 3 ou 4 qui étaient des cas sociaux, littéralement.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est des jeunes qui sont payés. Placés par ce qui s'appelait la DAS à l'époque, qui s'appelle maintenant l'ASE.
Ah, c'est ça. Et là, est-ce qu'il n'y a pas des motifs, des raisons ou des partenariats à passer avec les collectivités publiques pour qu'elles prennent en charge une partie des frais de scolarité des élèves les plus modestes, mais qui voudraient accéder quand même au privé hors contrat?
Alors là, vous avez fait une sorte de raccourci qui est difficile à suivre entre le coup du marteau et puis le raccourci, si je puis me permettre. Pour moi, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. La première chose, c'est que les élèves ont besoin d'une école qui leur corresponde, dans laquelle ils puissent réussir. Donc aujourd'hui, on ne tient pas compte de la volonté des parents et on ne tient pas compte des résultats des élèves. Et donc ça veut dire que si une élève est une école est nulle, ce n'est pas pour autant qu'elle sera moins financée. Et inversement, si une école a très bons résultats, c'est pas pourtant qu'elle sera plus financée. Et pareil au niveau des professeurs. Un professeur nul et un professeur excellent, il n'y a pas de rapport entre leur financement, leur carrière, leur responsabilité. Bon, ça, c'est le problème de la fonction publique française encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le problème général. Moi, ce que je demande tout simplement, c'est que l'argent suive, en quelque part, l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant est scolarisé dans tel endroit, l'argent public va au budget de cette structure-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la question des enfants de l'ASE. Aujourd'hui, c'est un drame qui nous retombera sur notre conscience, sur notre tête. C'est un drame les plus horribles qui soit aujourd'hui. Les enfants de l'ASE sont littéralement abandonnés, soumis très souvent à la prostitution, l'exploitation sexuelle, la violence, le manque d'attention humaine de base, et bien sûr tout ce qui est narcotrafic, et parfois ça va jusqu'au trafic d'organes, ça va très loin. Donc c'est donc c'est un des domaines les plus fous qui soit, et les plus sordides qui soit dans ce qui se passe en France. Et là, il faut que les personnes de bonne volonté, et en particulier les catholiques, je suis désolée, mais c'est les premiers concernés normalement, il faut qu'ils s'organisent pour prendre une partie de ces enfants. Évidemment, c'est pas des enfants faciles. Et ça veut dire qu'il faut plus d'entourage, il faut plus de tutorat, il faut plus de réalisme. Il ne s'agit pas de mettre un enfant comme ça dans une école ou deux sans s'occuper de rien en disant que ça va aller très bien. Non, ça ne va pas aller très bien du tout. Donc il va falloir s'en occuper beaucoup et pas du tout être angélique parce que sinon ça mènera à rien du tout. Et par contre, de mon point de vue, on n'a pas le droit de les laisser sur le carreau. Et aujourd'hui, ils sont laissés à part. Ils sont perdus. Et c'est des enfants, des futurs citoyens de la nation, comme vous et moi, comme nos propres enfants, et on les abandonne. Et ça, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a des financements qui sont donnés aux structures qui les reçoivent, et les structures privées sont très peu présentes. Et les structures catholiques sont très peu présentes. Alors, heureusement, il y a les orphelins, enfin, les apprentis d'Auteuil qui sont là, heureusement. Mais ça suffit pas. Donc là, il y a tout un champ à explorer d'engagement humain pour donner un avenir à ces jeunes qui aujourd'hui sont vraiment dans des situations d'abandon qui sont scandaleuses.
Alors pour en revenir aux plus modestes, simplement, qui ne sont pas des cas sociaux, mais qui ont simplement des gens dont les parents ont peut-être justement 5 enfants, ou un seul, mais ils n'ont pas l'argent.
Eh ben aujourd'hui,
est-ce qu'on peut trouver des partenariats encore? Est-ce qu'en gros, on peut leur permettre de défiscaliser, par exemple, de leurs impôts, la scolarité de leurs enfants?
Oui, alors en fait, à la Fondation Kairos pour l'innovation éducative, on a un système de bourse sociale. Donc en fait, ce n'est pas les familles qui nous sollicitent, ce sont les écoles. Donc les familles disent, contactent des écoles hors contrat, ils disent je veux être dans cette école-là. Si ce sont des élèves qui sont capables de suivre, parce que sinon ça ne sert à rien, et qui sont motivés et sérieux, les écoles se tournent vers nous et demandent s'il y a moyen d'avoir une bourse. Et donc nous délivrons un nombre important de bourses chaque année pour permettre à des enfants issus de familles modestes d'accéder à des écoles de qualité et qu'ils ont surtout choisi. C'est important de pouvoir poser un choix même quand on est modeste.
Ça l'est, oui.
Voilà.
Arthur de Vatrigan.
Une question qui n'a absolument rien à voir, mais qui est néanmoins essentielle. comme vous êtes énarque, vous allez au purgatoire. Parce que pour notre diplôme, on passe au purgatoire.
C'est optimiste, ça,
bien.
Comme perspective.
Vous préférez passer le purgatoire avec Pape Ndiaye, avec Vincent Peillon ou avec Najat Vallaud-Belkacem?
Vincent Peillon. Comme ça, on pourra finir la révolution ensemble, mais pas dans le même sens.
Gabriel Attal?
Oh non, non, non. Je lui confierai pas, moi,
c'est
mon avenir.
C'est qui le pire ministre de l'Éducation nationale? C'était qui? Celui qui a fait le plus de mal.
Bon, je sais pas, franchement. C'est quand même un cumul de problèmes, parce que je peux pas dire les noms, malheureusement, parce que...
Ça revient déjà avec le collège unique, non? Est-ce que c'est pas le point de départ de...
Oui, c'est, clairement, mais... tous, en fait, tous ceux avec lesquels j'ai parlé, en fait, ils ont fait un constat douloureux d'impuissance. Et donc, moi, souvent, on me pose la question, si vous étiez ministre, ou quand vous serez ministre, quand c'est sympathique, eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Mais le problème, c'est qu'en fait, vous avez déjà une administration qui n'a aucune intention d'écouter ce que va dire le ministre.
Bah, surtout en ce moment, c'est-à-dire que vu la rotation...
Et vu la rotation, ils ne voient vraiment pas pourquoi ils oublieraient qui que ce soit. Et en plus de ça, la question, c'est surtout celle de l'investissement du président de la République. Soit le président de la République, donc une sorte de carte blanche, et dit « Ok, il y aura tout le monde dans la rue, mais vous allez me remettre sur pied l'éducation et faire en sorte qu'il y ait une formation professionnelle qui tienne la route, qu'il y ait une sélection suffisante pour que les gens ne se perdent pas à faire des études qui ne servent à rien, mais que, etc. etc. » Donc, soit on a vraiment une carte blanche avec une feuille de route assez claire, et dans ce cas-là, ça vaut la peine d'être ministre et ça vaut la peine d'y aller, mais ça veut dire que ça va sacrément secouer, ça ne peut pas se passer autrement. Soit ça continue comme maintenant, c'est-à-dire que les gens font un petit tour avant d'aller ailleurs. Regardez Gabriel Attal, c'était emblématique. C'était un petit tour avant de...
Un petit strapontin pour
aller ailleurs. Donc en fait, il a des bonnes idées, il les déclare, il part ailleurs, rien n'est mis en place, c'est détricoté par la personne d'après, et puis voilà.
Ouais. Alors, cela dit, c'est vrai de tout désormais. C'est-à-dire que le moindre service public a ça, l'hôpital, la SNCF, c'est-à-dire que si on veut réformer, on doit s'attendre à avoir tout le monde dans la rue. C'est une évidence.
Oui, mais c'est pas un problème. En fait, simplement, il faut bien choisir ses combats, et puis surtout se donner le temps. Aujourd'hui, on a un problème de temps, et le quinquennat, à partir du moment où on a aligné... on est passé au quinquennat, on a aligné tous les calendriers en même temps, on a déclaré l'impossibilité d'une réforme. En matière d'éducation, il faut 15 ans. Les hommes politiques, ils réfléchissent à 18 mois.
Oui, la prochaine élection.
Là, vous êtes optimiste. 18 mois.
Le prochain renouvellement.
Prochain renouvellement, donc 18 mois.
Donc, prochaine élection, même locale, voilà, c'est-à-dire la régionale.
Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez faire de sérieux en 18 mois? Et alors, en plus, maintenant, il y a le Conseil constitutionnel qui invalide la plupart des choses.
Et en plus, le problème, c'est que
c'est pour ça,
plus on avance, et plus tout est prioritaire. Et donc, comme tout est prioritaire, et tout est à refaire intégralement, vous vous retrouvez avec tout le monde dans la rue, en fait.
Alors justement, là, dans...
C'est plutôt sympa, parce que si tout le monde est dans la rue pour toutes les raisons, ils ne peuvent pas descendre deux fois non plus.
ils vont tous se mettre en même temps, et puis chacun aura sa pancarte, mais ça fera un gros bordel.
Mais il faut lire la biographie de Margaret Thatcher. La première fois qu'elle essaie de faire une réforme, c'est la catastrophe, le pays est bloqué,
mais on en est là, en fait,
il n'y a plus d'essence, etc. Et elle s'est dit, très bien, je tire les leçons. Donc, le coup d'après... Elle fait des stocks stratégiques, elle parle à l'armée, et se dit, je vais rentabiliser la prochaine manifestation en faisant vraiment des réformes. Moi, je pense que de toute manière, les gens ont tendance à aller dans la rue, parce que c'est difficile le changement, ça fait peur. C'est normal, c'est humain, on a peur, et puis on a peur d'être dedans de la force. On se dit, moi je vais faire plein d'efforts, puis les autres ne vont pas en faire.
Et puis pourquoi moi,
Et puis pourquoi moi? Donc tout ça, c'est très normal, il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais pour que le changement soit accepté, il faut qu'il y ait une planification claire, il faut qu'il y ait une priorisation, comme disait Arthur de Vatrigan. Si tout est prioritaire, rien n'est prioritaire. Donc effectivement, il y a un moment, il faut dire ça, c'est prioritaire. Et puis, il faut qu'on comprenne que de toute manière, le pouvoir ne cédera pas. Ça sera comme ça, ça se fera comme ça. Et là, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette configuration-là.
Ah non, ça c'est sûr. Là, en fait, oui, vous parliez d'impuissance, mais il y a aussi un manque de courage qui est flagrant. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Est-ce que, pour la perspective de 2027, justement, vous pourriez nous dire quels seraient les meilleurs et les pires, selon vous, candidats pour votre domaine de prédilection, donc qui est l'éducation des enfants?
Je ne classerai pas les pseudo-candidats actuels, parce que, c'est pas mon rôle, et puis en plus, on ne sait pas très bien qui va se présenter, et puis en plus de ça, je ne perds pas d'objectif le fait qu'ils peuvent encore changer, parce que sur l'éducation, ils n'ont pas d'idée arrêtée, en réalité, ils s'en moquent. Donc finalement, c'est de certaines
Et vous formes. Faites le tour des popotes,
Mais oui, je fais le tour des popotes, ça m'occupe 3/4 de mon temps.
Et vous êtes écouté parfois?
Mais on verra bien. Je vous dirai après. En fait, moi, je leur dis une chose simple, c'est que il y a plusieurs points. Évidemment, il faut trouver un ou deux éléments de levier. On peut pas tout attaquer à la fois. Oui, bien sûr, il faut réformer les programmes. D'accord. Enfin, on réforme les programmes. Le coup d'après, c'est réformé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est quand même pas majeur. Et puis surtout, on a besoin de stabilité dans les programmes, avant tout. Et oui, il faut réformer les professeurs. Mais enfin, avant de réformer les professeurs, il faut les payer correctement. Et puis, il faut arriver à valoriser ceux qui travaillent bien et puis se débarrasser de ceux qui ne sont pas motivés ou fatigués ou qui veulent faire autre chose. Ça, c'est quand même indispensable. Et effectivement, il faut les payer plus. On ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr, tout ça, c'est vrai. Mais pour moi, le bout du bout, c'est de faire en sorte que les gens puissent choisir leur école, aussi bien les professeurs que les parents d'élèves, et même que les grands élèves, tout simplement parce qu'après, ça donne une capacité d'action. Imaginez, vous oubliez que c'est l'éducation et vous êtes chef d'entreprise. Ou vous êtes, je ne sais pas, capitaine de navire. Vous allez sur un navire, vous n'avez pas choisi l'équipage, vous n'avez pas choisi le cap, vous n'avez pas choisi la méthode de navigation. Comment vous voulez que ça marche?
Vous coulez le navire.
Et vous coulez, ouais, le navire. Enfin, ça ne peut pas aller autrement, voyez. Donc en fait, c'est fondamental de pouvoir avoir une équipe soudée autour d'une vision claire et stable dans le temps. C'est fondamental que les parents viennent parce qu'ils sont d'accord avec cette vision-là, qu'ils la comprennent et connaissent les règles du jeu. Et si ça va pas, s'ils travaillent pas, s'ils coopèrent pas, s'ils sont pas, eh ben il faut mieux qu'ils aillent ailleurs, c'est tout. Donc ça, c'est des principes de gouvernance de base. Et sous prétexte que c'est l'État, on s'en affranchit. Mais on peut pas s'affranchir du réel. C'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je propose, c'est très simple. C'est une idée très simple. On me dit, ah oui, mais le chèque éducation, vous rendez pas compte, c'est complètement utopique. Mais c'est pas besoin. D'abord, c'est pas besoin d'appeler ça le chèque éducation. Ça n'a rien d'utopique. L'idée est très très simple. L'argent va là où l'enfant est scolarisé. Est-ce que c'est compliqué? Ça existe dans plein de pays. Ça existe dans les pays scandinaves, ça existe dans certains États américains. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Non. Bon. C'est juste respecter le choix des gens.
Ben, espérons que votre tour des popotes sera productif.
Voilà. C'est fatigant en tout cas.
Vous avez rencontré Édouard Philippe il n'y a pas longtemps?
Alors j'ai rencontré son équipe, j'attends un petit peu pour Édouard Philippe.
Bah, il a fait un discours sur l'école.
Il fait partie des gens qui bossent la question éducative. Il faut reconnaître.
Bah, en tout cas, il a annoncé une réforme qui va être la plus importante depuis Jules Ferry, voilà, s'il était élu. S'il prenait le pouvoir, parce que c'est vrai qu'il n'a jamais pris le pouvoir, oui. Avec quand même l'autonomie des établissements.
Ah, c'est bien ça.
Et ben, j'espère
c'est bien, oui, c'est ce qu'il
j'espère
dit.
Enfin... que mon travail auprès de Clément Thonon a porté ses fruits, parce que c'est lui qui est responsable du programme. Mais voilà. Cette histoire de promettre l'autonomie des établissements, elle est sortie plusieurs fois des chapeaux. Tout dépend de ce que vous mettez derrière autonomie. Parce que si vous laissez les espèces de scribes administratifs actuels qui dirigent les établissements prendre la tête de ces établissements-là, ça sera pire que tout. Donc en fait, il faut déjà faire une transformation de la gouvernance avant de passer à l'autonomie. Il faut faire les choses proprement, sinon ça sera complètement contre-productif.
Ouais, en gros, il a dit précisément, je veux que les directeurs d'école, d'établissement, puissent agir, les moyens d'agir en patron, entre guillemets.
C'est très bien, mais bon, il faut savoir qui dirige, qui a le big stick, c'est ça la question.
Le gros bâton.
Le gros bâton.
Décidément.
C'est Léna, voilà.
Oui.
Pas du tout, c'est la théorie Monroe, que je vous dis, vous aimez l'histoire ici, c'est une citation historique.
Bon, alors ça va.
Non, on ne parle anglais jamais.
Écoutez, malheureusement, nous avons atteint la limite du temps qui nous était imparti. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut redonner l'adresse à laquelle les auditeurs éventuels de Radio Courtoisie pourraient vous contacter s'ils connaissent des élèves qui ont été discriminés?
Oui, c'est très important. Il faut qu'ils le fassent avant demain midi, sinon ça sera compliqué.
Demain midi. Ah oui, donc demain. Mardi midi. Hein, si on nous écoute en rediffusion, c'est mardi.
Mercredi midi.
Ah, mercredi. Donc 8 juillet.
Voilà.
Mercredi 8 juillet avant midi.
Le plus tôt, c'est le mieux quand même.
Oui, forcément, oui.
Et donc, le mieux, c'est soit téléphoner en allant par le site de Créer son école, soit envoyer un mail à anne@educfrance.org.
anne@educfrance.org ou bien sinon courtoisie@rc.fr et nous ferons suivre. Donc,
et s'il y a
Anne
des
Coffinier.
Auditeurs qui ont envie de soutenir nos recours et notre action en la matière ou plus largement pour la liberté d'enseignement, qu'ils n'hésitent pas parce que nous ne vivons comme Radio Courtoisie que du soutien des gens qui pensent que ce qu'on fait est utile. Donc, il ne faut pas hésiter.
Sur cette charité bien ordonnée, on passe à notre rendez-vous de la réinformation.